L'Odyssée, livre sixième. Ainsi dormait là le patient et divin Odysseus, dompté par le sommeil et par la fatigue, tandis qu'Athénée se rendait à la ville et parmi le peuple des hommes phaïakiens, qui habitaient autrefois la grande Hypériée, auprès des cyclopes insolents qui les opprimaient, étant beaucoup plus forts qu'eux. Inositoos, semblable à un dieu, les emmena de là et les établit dans l'île de Scérié, loin des autres hommes. Et il bâtit un mur autour de la ville, éleva des demeures, construisit des temples des dieux, et partagea les champs. Mais déjà, dompté par la guerre, il était descendu chez Édès, et maintenant régnait Alcinoos, instruit dans la sagesse par les dieux. Et Athénée, la déesse aux yeux clairs, se rendant à sa demeure, méditait le retour du magnanime Odysseus. Et elle entra promptement dans la chambre ornée où dormait la jeune vierge, semblable aux immortels par la grâce et la beauté, Nausicaa, fille du magnanime Alcinoos. Et deux servantes, belles comme les Charites, se tenaient des deux côtés du seuil, et les portes brillantes étaient fermées. Athénée, comme un souffle du vent, approcha du lit de la jeune vierge, et se tenant au-dessus de sa tête, lui parla, semblable à la fille de l'illustre marin Dimas, laquelle était du même âge qu'elle et qu'elle aimait. Semblable à cette jeune fille, Athénée aux yeux clairs parla ainsi. « Nausicaa, pourquoi ta mère t'a-t-elle enfantée si négligente? En effet, tes belles robes gisent négligées et tes noces approchent, où il te faudra revêtir les plus belles et en offrir à ceux qui te conduiront. La bonne renommée parmi les hommes vient des beaux vêtements. » Et le père et la mère vénérables s'en réjouissent. Allons donc laver tes robes, au premier lever du jour, et je te suivrai et t'aiderai, afin que nous finissions promptement, car tu ne seras plus longtemps vierge. Déjà les premiers du peuple te recherchent, parmi tous les Phaïakiens dont sort ta race. Allons, demande à ton illustre père, dès le matin, qu'il fasse préparer les mulets et le char, qui porteront les ceintures, les péplos et les belles couvertures. Il est mieux que tu montes aussi sur le char que d'aller à pied, car les lavoirs sont très éloignés de la ville. » Ayant ainsi parlé, Athénée aux yeux clairs retourna dans l'Olympos, où sont toujours, dit-on, les solides demeures des dieux, que le vent n'ébranle point, où la pluie ne coule point, dont la neige n'approche point, mais où la sérénité vole sans nuages, et qu'enveloppe une splendeur éclatante, dans laquelle les dieux heureux se réjouissent sans cesse. C'est là que remonta la déesse aux yeux clairs, après qu'elle eut parlé à la jeune vierge. Et aussitôt la brillante Éos se leva, et réveilla Nausicaa au beau péplos, qui admira le songe qu'elle avait eu. Et elle se hâta d'aller parmi les demeures, afin de prévenir ses parents, son cher père et sa mère, qu'elle trouva dans l'intérieur. Et sa mère était assise au foyer avec ses servantes, filant la laine teinte de pourpre marine. Et son père sortait avec les rois illustres pour se rendre au conseil où l'appelaient les nobles phaïakiens. Et s'arrêtant près de son cher père, elle lui dit « Cher père, ne me feras-tu point préparer un char large et élevé afin que je porte au fleuve et que je lave nos beaux vêtements qui gisent salis ?» Il te convient, en effet, à toi qui t'assises au conseil parmi les premiers, de porter de beaux vêtements. Tu as 5 fils dans ta maison royale. 2 sont mariés, et 3 sont encore des jeunes hommes florissants. Et ceux-ci veulent aller aux danses, couverts de vêtements propres et frais, et ces soins me sont réservés. Elle parla ainsi, n'osant nommer à son cher père ses noces fleuries. Mais il la comprit, et il lui répondit, « Je ne te refuserai, mon enfant, ni des mulets, ni autre chose. Va, et mes serviteurs te prépareront un char large et élevé, propre à porter une charge. » Ayant ainsi parlé, il commanda aux serviteurs, et ils obéirent. Ils firent sortir un char rapide, et ils le disposèrent, et ils mirent les mulets sous le joug, et les lièrent au char. Et Nausicaa apporta de sa chambre ses belles robes, et elle les disposa dans le char. Et sa mère enfermait d'excellents mets dans une corbeille, et elle versa du vin dans une outre de peau de chèvre. La jeune vierge monta sur le char, et sa mère lui donna dans une fiole d'or une huile liquide, afin qu'elle se parfumât avec ses femmes. Et Nausicaa saisit le fouet et les belles rênes, et elle fouetta les mulets, afin qu'ils courussent. Et ceux-ci, faisant un grand bruit, s'élancèrent, emportant les vêtements et Nausicaa, mais non pas seuls, car les autres femmes allaient avec elles. Et quand elles furent parvenues au cours limpide du fleuve, là où étaient les lavoirs pleins toute l'année, car une belle eau abondante y débordait, propre à laver toutes les choses souillées, elles délièrent les mulets du char, et elles les menèrent vers le fleuve tourbillonnant, afin qu'ils pussent manger les douces herbes. Puis elles saisirent de leurs mains dans le char les vêtements qu'elles plongèrent dans l'eau profonde, les foulant dans les lavoirs et disputant de promptitude. Et les ayant lavés et purifiés de toute souillure, elles les étendirent en ordre sur les rochers du rivage que la mer avait baignés. Et s'étant elles-mêmes baignées et parfumées d'huile luisante, elles prirent leur repas sur le bord du fleuve, et les vêtements séchaient à la splendeur de Hélios. Après que Nausicaa et ses servantes eurent mangé, elles jouèrent à la balle, ayant dénoué les bandelettes de leur tête. Et Nausicaa, au beau bras, commença une mélopée. Ainsi Artémis marche sur les montagnes, joyeuse de ses flèches, et sur le Tégétos escarpé ou l'Érymanthos se réjouit des sangliers et des cerfs rapides. Et les nymphes agrestes, filles de Zeus tempétueux, jouent avec elle. Et Leto se réjouit dans son cœur. Artémis les dépasse toutes de la tête et du front, et on la reconnaît facilement, bien qu'elle soit toute belle. Ainsi la jeune vierge brillait au milieu de ses femmes. Mais quand il fallut plier les beaux vêtements, atteler les mulets et retourner vers la demeure, alors Athénée, la déesse aux yeux clairs, eut d'autres pensées. Et elle voulut qu'Odysseus se réveillât et vit la vierge aux beaux yeux, et qu'elle le conduisit à la ville des Phaïaciens. Alors, la jeune reine jeta une balle à l'une de ses femmes, et la balle s'égara, et tomba dans le fleuve profond. Et toutes poussèrent de hautes clameurs, et le divin Odysseus s'éveilla. Et s'asseyant, il délibéra dans son esprit et dans son cœur. Hélas, à quels hommes appartient cette terre où je suis venu? Sont-ils injurieux, sauvages, injustes? Hospitaliers, et leur esprit craint-il les dieux? J'ai entendu des clameurs de jeunes filles. Est-ce la voix des nymphes qui habitent le sommet des montagnes et les sources des fleuves et les marais herbus? Ou suis-je près d'entendre la voix des hommes? Je m'en assurerai et je verrai. Ayant ainsi parlé, le divin Odysseus sortit du milieu des arbustes, et il arracha de sa main vigoureuse un rameau épais, afin de voiler sa nudité sous les feuilles. Et il se hâta, comme un lion des montagnes, confiant dans ses forces, marche à travers les pluies et les vents. Ses yeux luisent ardemment, et il se jette sur les bœufs, les brebis ou les cerfs sauvages, car son ventre le pousse à attaquer les troupeaux et à pénétrer dans leurs solides demeures. Ainsi, Odysseus parut au milieu des jeunes filles aux beaux cheveux, tout nu qu'il était, car la nécessité l'y contraignait. Et il leur apparut horrible et souillé par l'écume de la mer, et elles s'enfuirent çà et là sur les hauteurs du rivage. Et seule, la fille d'Alcinoos resta, car Athénée avait mis l'audace dans son cœur et chassé la crainte de ses membres. Elle resta donc seule en face d'Odysseus. Et celui-ci délibéré, ne sachant s'il supplierait la vierge aux beaux yeux, en saisissant ses genoux, ou s'il la prierait de loin, avec des paroles flatteuses, de lui donner des vêtements et de lui montrer la ville. Et il vit qu'il valait mieux la supplier de loin par des paroles flatteuses, de peur que s'il saisissait ses genoux, elle s'irrita dans son esprit. Et aussitôt, il adressa à la Vierge ce discours flatteur et adroit. « Je te supplie, ô reine, que tu sois déesse ou mortelle. Si tu es déesse, de celle qui habite le large Ouranos, tu me sembles Artémis, fille du grand Zeus, par la beauté, la stature et la grâce. Si tu es une des mortelles qui habite la terre, Trois fois heureux ton père et ta mère vénérables, trois fois heureux tes frères. Sans doute, leur âme est pleine de joie devant ta grâce, quand ils te voient te mêler au cœur d'encens. Mais plus heureux de tous, celui qui te comblant de présents d'Hyménée, te conduira dans sa demeure. Jamais en effet, je n'ai vu de mes yeux un homme aussi beau, ni une femme aussi belle, et je suis saisi d'admiration. Une fois à Délos, devant l'autel d'Apollon, je vis une jeune tige de palmier. J'étais allé là, en effet, et un peuple nombreux m'accompagnait dans ce voyage, qui devait me porter malheur. Et en voyant ce palmier, je restais longtemps stupéfait dans l'âme qu'un arbre aussi beau fût sorti de terre. Ainsi je t'admire, ô femme, et je suis stupéfait, et je tremble de saisir tes genoux, car je suis en proie à une grande douleur. Hier, après 20 jours, je me suis enfin échappé de la sombre mer. Pendant ces temps-là, les flots et les rapides tempêtes m'ont entraîné de l'île d'Ogygie. Et voici qu'un dieu m'a poussé ici, afin que j'y subisse encore peut-être d'autres maux, car je ne pense pas en avoir vu la fin, et les dieux vont sans doute m'en accabler de nouveau. Mais, ô reine, aie pitié de moi, car c'est vers toi la première que je suis venue, après avoir subi tant de misère. Je ne connais aucun des hommes qui habitent cette ville et cette terre. Montre-moi la ville, et donne-moi quelques lambeaux pour me couvrir, si tu as apporté ici quelque enveloppe de vêtements. Que les dieux t'accordent autant de choses que tu en désires, un mari, une famille et une heureuse concorde, car rien n'est plus désirable et meilleur que la concorde, à l'aide de laquelle on gouverne sa famille. Le mari et l'épouse accablent ainsi leurs ennemis de douleur et leurs amis de joie, et eux-mêmes sont heureux. Et Nausicaa, au bras blanc, lui répondit : Étranger, car certes, tu n'es semblable ni à un lâche ni à un insensé. Zeus Olympien dispense la richesse aux hommes, aux bons et aux méchants, à chacun comme il veut. C'est lui qui t'a fait cette destinée, et il faut la subir patiemment. Maintenant, étant venu vers notre ville et notre terre, tu ne manqueras ni de vêtements, ni d'aucune autre des choses qui conviennent à un malheureux qui vient en suppliant. Je te montrerai la ville, et je te dirai le nom de notre peuple. Les Phaiakiens habitent cette ville et cette terre. Et moi, je suis la fille du magnanime Alcinoos, qui est le premier parmi les Phaiakiens, par le pouvoir et la puissance. Elle parla ainsi et commanda à ses servantes aux belles chevelures. Venez près de moi, servante. Où fuyez-vous pour avoir vu cet homme? Pensez-vous que ce soit quelque ennemi? Il n'y a point d'homme vivant, et il ne peut en être un seul qui porte la guerre sur la terre des Phaiakiens, car nous sommes très chers aux dieux immortels, et nous habitons aux extrémités de la mer onduleuse, et nous n'avons aucun commerce avec les autres hommes. Mais si quelque malheureux errant vient ici, il nous faut le secourir, car les hôtes et les mendiants viennent de Zeus, et le don, même modique qu'on leur fait, lui est agréable. C'est pourquoi, servante, donnez à notre hôte à manger et à boire, et lavez-le dans le fleuve, à l'abri du vent. Elle parla ainsi, et les servantes s'arrêtèrent et s'exhortèrent l'une l'autre, et elles conduisèrent Odysseus à l'abri du vent, comme l'avait ordonné Nausicaa, fille du magnanime Alcinoos, et elles placèrent auprès de lui des vêtements, un manteau et une tunique, et elles lui donnèrent l'huile liquide dans la fiole d'or, et elles lui commandèrent de se laver dans le courant du fleuve. Mais alors le divin Odysseus leur dit : Servante, éloignez-vous un peu, afin que je lave l'écume de mes épaules et que je me parfume d'huile, car il y a longtemps que mon corps manque d'onction. Je ne me laverai point devant vous, car je crains par respect de me montrer nu au milieu de jeunes filles aux beaux cheveux. Il parla ainsi, et se retirant, elles rapportèrent ses paroles à la vierge Nausicaa. Et le divin Odysseus lava dans le fleuve l'écume salée qui couvrait son dos, ses flancs et ses épaules, et il purifia sa tête des souillures de la mer indomptée. Et après s'être entièrement baigné et parfumé d'huile, Il se couvrit des vêtements que la jeune vierge lui avait donnés. Et Athénée, fille de Zeus, le fit paraître plus grand et fit tomber de sa tête sa chevelure bouclée, semblable aux fleurs d'hyacinthe. De même, un habile ouvrier qui répand de l'or sur de l'argent et qu'Héphaïstos et Pallas Athénée ont instruit, achève de brillantes œuvres avec un art accompli. De même, Athénée répandit la grâce sur sa tête et sur ses épaules. Et il s'assit ensuite à l'écart, sur le rivage de la mer, resplendissant de beauté et de grâce. Et la Vierge, l'admirant, dit à ses servantes aux beaux cheveux, « Écoutez-moi, servantes aux bras blancs, afin que je dise quelque chose. Ce n'est pas malgré tous les dieux qui habitent l'Olympos que cet homme divin est venu chez les Phaïaciens. Il me semblait d'abord méprisable, et maintenant, il est semblable aux dieux qui habitent le large Ouranos. Plutôt Dieu, qu'un tel homme fut nommé mon mari, qu'il habitât ici et qu'il lui plût d'y rester. Mais vous, servante, offrez à notre hôte à boire et à manger. » Elle parla ainsi, et les servantes l'entendirent et lui obéirent. Et elles offrirent à Odysseus à boire et à manger. Et le divin Odysseus buvait et mangeait avec voracité, car il y avait longtemps qu'il n'avait pris de nourriture. Mais Nausicaa, aux bras blancs, eut d'autres pensées, et elle posa les vêtements pliés dans le char, et y monta après avoir attelé les mulets au sabot massif. Et exhortant Odysseus, elle lui dit, « Lève-toi, étranger, afin d'aller à la ville, et que je te conduise à la demeure de mon père prudent, où je pense que tu verras les premiers d'entre les Phaïaciens. Mais fais ce que je vais te dire, car tu me sembles plein de sagesse. Aussi longtemps que nous irons à travers les champs et les travaux des hommes, marche rapidement avec les servantes, derrière les mulets et le char. Et moi, je montrerai le chemin. Mais quand nous serons arrivés à la ville, qu'environne de hautes tours, et que partage en deux un beau port dont l'entrée est étroite, où sont conduites les nefs, chacune à une station sûre, et devant lequel est le beau temple de Poséidon, dans l'agora pavée de grandes pierres taillées, et là aussi sont les armements des noirs nefs, les cordages et les antennes, et les avirons qu'on polit, car les arcs et les carquois n'occupent point les Phaïaciens, mais seulement les mâts et les avirons des nefs, et les nefs égales sur lesquelles ils traversent joyeux la mer pleine d'écume. Évite alors leurs amères paroles, de peur qu'un d'entre eux me blâme en arrière, car ils sont très insolents, et que le plus méchant nous rencontrant, disent peut-être, quel est cet étranger grand et beau qui suit Nausicaa? Où l'a-t-elle trouvé? Certes, il sera son mari. Peut-être l'a-t-elle reçu avec bienveillance, comme il errait hors de sa nef, conduite par des hommes étrangers, car aucun n'habite près d'ici. Ou peut-être encore, un dieu qu'elle a supplié ardemment est-il descendu de l'Ouranos, et elle le possédera tous les jours. Elle a bien fait d'aller au-devant d'un mari étranger, car certes, elle dédaigne les Phaïaciens, illustres et nombreux qui la recherchent. Ils parleraient ainsi, et leurs paroles seraient honteuses pour moi. Je blâmerais moi-même, celle qui, à l'insu de son cher père et de sa mère, irait seule parmi les hommes avant le jour de ses noces. Écoute donc mes paroles, étranger, afin d'obtenir de mon père des compagnons et un prompt retour. Nous trouverons auprès du chemin un beau bois de peupliers consacré à Athénée. Une source en coule, et une prairie l'entoure, et là sont le verger de mon père, et ses jardins florissants, éloignés de la ville d'une portée de voix. Il faudra t'arrêter là quelque temps, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la ville, et à la maison de mon père. Dès que tu penseras que nous y sommes parvenus, alors marche vers la ville des Phaïaciens, et cherche les demeures de mon père, le magnanime Alcinoos. Elles sont faciles à reconnaître, et un enfant pourrait y conduire, car aucune des maisons des Phaïaciens n'est telle que la demeure du héros Alcinoos. Quand tu seras entré dans la cour, traverse promptement la maison royale afin d'arriver jusqu'à ma mère. Elle est assise à son foyer, à la splendeur du feu, filant une laine pourprée admirable à voir. Elle est appuyée contre une colonne, et ses servantes sont assises autour d'elle. Et à côté d'elle est le trône de mon père, où il s'assied pour boire du vin, semblable à un immortel. En passant devant lui, embrasse les genoux de ma mère, afin que, joyeux, tu vois promptement le jour du retour, même quand tu serais très loin de ta demeure. En effet, si ma mère t'est bienveillante dans son âme, tu peux espérer revoir tes amis et rentrer dans ta demeure bien bâtie et dans la terre de la patrie. » Ayant ainsi parlé, elle frappa les mulets du fouet brillant, et les mulets, quittant rapidement les bords du fleuve, couraient avec ardeur et en trépignant. Et Nausicaa les guidait avec art des rênes et du fouet, de façon que les servantes et Odysseus suivissent à pied. Et Hélios tomba, et ils parvinrent au bois sacré d'Athénée, où le divin Odysseus s'arrêta. Et aussitôt, il supplia la fille du magnanime Zeus. « Entends-moi, fille indomptée de Zeus tempétueux, exauce-moi maintenant, puisque tu ne m'as point secouru quand l'illustre qui entoure la terre m'accablait. Accorde-moi d'être le bienvenu chez les Phaïaciens, et qu'ils aient pitié. » Il parla ainsi en suppliant, et Pallas Athénée l'entendit, mais elle ne lui apparut point, respectant le frère de son père, car il devait être violemment irrité contre le divin Odysseus, jusqu'à ce que celui-ci fût arrivé dans la terre de la patrie.